Africa, le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs, l'émission Vous avez la parole sur Africa Radio chaque jour du lundi au vendredi. L'antenne d'Africa vous appartient, vous pouvez commenter l'actualité, réagir aux sujets qui font la une, nous faire part de vos coups de cœur ou de vos coups de gueule. Hein. C'est votre émission aujourd'hui, c'est sujet libre. Comme chaque vendredi, vous pouvez commenter l'actualité de votre choix. Pour participer, appelez-nous dès maintenant au 33 1 55 07 58 00. 33 1 55 07 58 00. On attend vivement vos appels, n'hésitez pas, appelez-nous, inscrivez-vous. Et puis on vous rappelle comme ça, cela évite de vous faire patienter. Au standard, avant de vous écouter en direct, on se tourne vers le répondeur d'Africa Radio pour écouter quelques-uns de vos messages.
Africa, vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
Oui, bonjour amis des GDA et bonjour Madame Stéphane Hartmann, Congolais et Congolaise de la RDC. Soyons très vigilants et surtout soudés. La RDC est toujours dans l'occupation depuis 1997. Donc, le combat est toujours là et ça continue. UDPS nous a trahis. Notre objectif était Kabila et le FCC, front commun de corruption, dégage. Mais la surprise, Kabila et maintenant, partenaire, Zoé, gouverneur, Robert doit dans les commandes. Mais si vraiment il y a l'état de droit en RDC, nous demandons à Félix la justice, surtout l'affaire Chebeya, la mort de Rossi Mukondi, des fausses communes et des charnières de Maluku, plus précisément la mort de Yumbi. Donc, Kabila, Kalev, Tangu Mamba, et mène de tous à la haie. Merci.
Bonjour JBA, c'est Fatih. Je viens juste d'écouter un message concernant les Camerounais de ne pas s'occuper de leur pays et de ne pas se mêler des histoires de la Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne comprends rien du tout. Nous sommes tous là. Les Africains, et particulièrement, je ne suis pas du Camerounais, mais je suis une Africaine. Mais les Camerounais ont le droit de parler de n'importe quel pays de l'Afrique. Ce n'est pas parce que le Cameroun a un problème aujourd'hui que le Camerounais ne doit pas parler d'un autre pays africain. Nous avons au moins cette liberté de nous exprimer sur la radio africaine. Mais comment est-ce que la liberté d'un Camerounais va être limitée? La liberté d'un Camerounais n'a pas le droit d'être limitée. Ce n'est pas parce que le Camerounais ne vient pas de la Côte d'Ivoire que le Camerounais ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire. Un Burundais peut parler de la Côte d'Ivoire. Un Sud-Africain peut parler de la Côte d'Ivoire. Un Rwandais, un Burkinabé, un Tanzanien. Et que sais-je encore? Le Camerounais, je vous en prie, exprimez-vous. Bonne journée, JDA.
Oui. Bonjour Madame Hartmann, bonjour Africains, Africaines, Européens, Européennes. Ah, énorme, en ce 21e siècle, ce que l'on n'applique pas aux animaux, notamment aux chevaux de course, le TAS et le Comité olympique pour l'athlétisme veulent l'appliquer à la Sud-Africaine qu'on soupçonne d'être un garçon. On veut lui injecter des hormones pour l'égaliser avec les autres. En réalité, pour les chevaux, ça s'appelle un handicap. On met un poids plus lourd sur l'animal sans toucher à son intégrité physique ou on lui fait courir une distance plus longue que les autres, mais on ne touche pas à leur intégrité physique. Et pour notre fille ou notre sœur, on voudrait modifier son intégrité physique, l'affaiblir pour qu'elle soit au même niveau que les autres. Où sommes-nous là? Je vous pose la question. Le racisme là dépasse toutes les bornes. Merci.
Africa. Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio.
Merci à tous pour vos messages aujourd'hui dans le journal des auditeurs. C'est la libre antenne. Hein. Justement, venez nous dire ce que vous pensez de cette décision du tribunal arbitral du sport qui a débouté l'athlète sud-africaine Caster Semenya. Mais venez aussi nous parler du sujet de votre choix. On attend notamment vos réactions sur la réforme constitutionnelle au Togo. Elle a été adoptée il y a quelques jours sur la crise au Bénin, la libération des otages, et aussi peut-être la situation sécuritaire au Burkina Faso après le limogeage de plusieurs gouverneurs dans des régions où il y a eu notamment plusieurs attaques. Mais avant de parler de tout cela, on va écouter Diez qui veut revenir sur une polémique qui touche en Côte d'Ivoire, notamment sur les propos de l'ancienne ministre Anne Houloto, qui a estimé qu'il n'y avait pas eu de génocide à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les polémiques autour de l'emploi du terme de génocide, on en parle avec Diez. Diez, bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour monsieur Diez, on vous entend bien.
Ok.
Alors, c'est Anne-Désirée Houloto qui a fait polémique en disant que si le peuple Wé avait été victime de génocide, je ne serais pas en vie. Et ces propos étaient tenus lors de la pose de la première pierre du mémorial commémorant la tragédie Wé à Douekoué.
Voilà, justement, je vous remercie. Maman va passer la parole. Madame Houloto, dont on parle, elle est de Biglo. C'est une fille, une dame guérée de ma région. Ben, je pense que ce qu'elle a dit, même si elle a été envoyée en mission, qu'elle sache partir aussi à cette mission. Elle seule sait qu'il n'y a pas de génocide où est à Dieu. Mais au fait, elle a ajouté en plus que s'il y avait le génocide, elle ne serait pas vivante. Très bien, elle est ministre. Mais quand on parle de génocide Tutsi, je crois qu'il y a des gens qui se plaignent, c'est qu'ils sont vivants. Quand on parle de Rwanda, aujourd'hui, il y a des gens...
Elle conteste le terme de génocide, elle parle plutôt de tuerie et de massacre à grande échelle. Il y a un analyste ivoirien, lui, qui parle d'heptacide.
Oui, le génocide, madame. Moi, je vais dire à madame Houloto, qui est des morts. Bon, même si on enlève le mot génocide, elle est la ministre du pouvoir. Elle est de Dieu-Cré. 8 ans après, ou bien même 9 ans, personne n'est parti pleurer, dire même que voilà, les gens qui sont tombés, c'est des Ivoiriens. Le génocide qui a eu à Dieu-Cré, c'est vrai, on parle de Dieu-Cré parce que c'est la ville des guerriers, des Ouais. Mais il y a eu toutes les ethnies qui vivent là, qui sont aussi morts. Même ceux qu'on appelle communément Dioula, ils sont pleins aussi dans ces génocides-là.
D'où la contestation du terme de génocide. Génocide, c'est une destruction méthodique d'un groupe humain.
Oui, cher Diaz. Moi, je suis à Paris, madame Stéphanie, s'il vous plaît, c'est pas comment. Bon, je veux dire que même les ONG l'ont reconnu. Même Soro, il a reconnu ça de façon d'une autre manière. Je veux dire que c'est pas non, c'est que moi j'ai dit, je ne dis pas ça. Ça vient de moi, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai lues sur les journaux de la Côte d'Ivoire. Elle est la seule à dire qu'il n'y a pas eu de génocide. Même aussi, il n'y a pas eu de génocide. Pourquoi ne pas aller s'indigner sur les morts?
Diez, moi, on peut débattre d'ailleurs, moi, si les auditeurs veulent des 33 1 55 07 58 00, c'est peut-être l'emploi du terme de génocide qui donne lieu à polémique. On entend ça aussi, par exemple, pour le Congo, concrètement, l'ONU n'a pas reconnu, madame, par exemple, les massacres au Congo comme un génocide. Vous voyez, vous avez un certain nombre de génocides qui sont reconnus, plus ou moins d'ailleurs.
Madame, moi, ce que j'ai dit, je parle aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Eux-mêmes l'ont reconnu, les ONG ont reconnu qu'il y a eu génocide à Dieu-Cré.
Ils ont reconnu des massacres, la différence sur les rapports d'Amnesty.
Madame.
Est-ce qu'Amnesty parle de génocide? Amnesty ne parle pas de génocide.
Le génocide, ça veut dire quoi? On ne va pas rester longtemps dessus, parce que si on veut expliquer, ça va être long.
Qui se conçoit bien, c'est donc clairement.
Oui, mais moi, je dis qu'il y a eu génocide à Dieu-Cré. Ça, c'est clair et net. et devant l'ONU et devant les casques bleus, eux tous, c'était juste là, c'est juste devant eux que ça s'est passé. Même aujourd'hui, si on ne reconnaît pas le mot génocide, qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui sont tombés.
Alors c'est ce que j'allais dire, Diaz, puisque là on parle d'un mémorial hein, et de la pose de la première pierre, est-ce que alors que effectivement ces massacres ont été longtemps niés, peut-être par le pouvoir, est-ce que là il y a quand même une certaine prise de conscience sur les drames qu'a vécu cette région?
Oui, mais justement, ils ont évité le mot génocide pour ne pas être aussi incriminés, alors qu'ils sont bien incriminés. Il y a eu génocide à Dioké Madar, mais seulement Anne Oleto, là, avec c'est la sœur de Gossio. Si vous connaissez Gossio, vous avez entendu parler de Gossio. Bon, cette dame-là, pour aller dans sa ville qui est Giglo, elle passe par Dioké. Mais au moins, même s'il y a génocide ou pas, il y a eu des morts à Dioké, comme vous le dites. Comme tout le monde le sait. Mais pourquoi elle ne s'est jamais arrêtée pendant 8 ans, une minute, pour dire qu'elle s'indigne devant les morts? Même si ces morts-là sont des gens qu'ils estiment que Gbagbo, c'est seulement des Africains, mais c'est des Ivoiriens qui sont morts. Mais c'est l'évêque dit qu'il n'y a pas eu de génocide. Ça, c'est sa conscience seule. Elle est la seule à dire ça. Même les opinions internes, tous ceux qui ont...
J'ai le rapport d'Amnesty encore une fois sur les dieux, et Amnesty ne prononce pas le mot génocide, il dénonce effectivement les exactions commises à Dwekwe, mais voilà, qu'on soit précis, mon cher Diaz.
Il ne peut pas le dire parce que c'est eux-mêmes...
Ah voilà, non, mais justement, parce que vous dites tout le monde le dit, moi je vous dis non, voilà, vous dites qu'on soit clair.
Il y a les ONG qui le disent, c'est pas moi je ne suis pas là-bas. Mais les ONG disent qu'il y a des génocides à Dioké, qu'il y a 8 génocides à Dioké.
C'est quelle ONG? Vous citez quelle ONG, Diaz? Vous citez quelle ONG?
Je ne vais pas vous citer tout de suite les ONG qui l'ont dit.
Non, mais c'est pour donner la source précise. On a compris.
Non, je n'ai pas préparé.
C'est important. Vous savez, quand on prend l'antenne dans une radio, il faut savoir un peu de quoi on parle, justement. Donc, vaut mieux préparer avant de parler à l'antenne pour effectivement éviter les malentendus. Merci, Diaz, de nous avoir alerté sur cette polémique autour, effectivement, de l'utilisation du mot génocide concernant les massacres qui ont lieu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, notamment en avril 2011. Et Amnesty, dénonce le fait que les forces fidèles au président Ouattara n'aient pas été traduites en justice, bien qu'ils soient soupçonnés d'avoir commis des graves atteintes aux droits humains, avec plus de 800 personnes tuées à Dwekwe en avril 2011. Merci, Diaz, bonne journée. C'est la Libre Antenne, venez nous parler, réagir à l'actualité au sujet de votre choix. 33 1 55 07 58 00 33 1 55 07 58 00. On parle du Mali désormais avec Demba. Demba, bonjour.
Allô, bonjour Madame Akman.
Bonjour Monsieur Demba. Vous voulez parler du nouveau gouvernement malien, un gouvernement qui a vu le jour cette semaine, composé de 38 membres formés par le Premier ministre Boubou Cissé, un gouvernement qualifié d'ouverture, puisqu'il y a plusieurs personnalités de l'opposition, dont Thiébilé Dramé, qui ont fait leur entrée, et un gouvernement qui a été nommé suite à un accord politique qualifié d'historique.
Oui. Voilà, je voulais parler de ce gouvernement-là parce que bon, on est souhaité un bon vent qu'ils arrivent à sortir le pays dans ces crises-là. Allô? Allô?
Oui.
Vous m'entendez?
Oui, on vous entend.
Voilà, j'ai dit on les souhaite un bon vent qu'ils puissent sortir le pays dans ces crises-là. Et puis le problème c'est quoi? Parce que j'ai compris que les opposants qui faisait bruit depuis la dernière élection de Ibeka. Voilà, c'était pour partager les gâteaux comme eux-mêmes ils disent dans leur langage. Voilà, et...
Ah, ça a coupé, Demba. Voilà, il faut éviter un problème de réseau à cause du kit Malim. Il y a Youssouf, du coup, qui voulait réagir à la situation au massacre. À l'ouest, à Dwekwe, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Youssouf, bonjour.
Bonjour, madame et Stéphanie.
Bonjour, monsieur Youssouf, on vous écoute.
Vous allez bien. Bon, je pense que donc, c'est juste participer à l'émission pour que je puisse comprendre le mot génocide. C'est la première fois que j'attends depuis la crise ivoirienne et a éclaté. C'est la première fois que j'attends le mot génocide en Côte d'Ivoire. Je voulais savoir. Pourquoi on va pointer le doigt à un seul endroit en Côte d'Ivoire. Ok, c'est un pays tout entier personne n'a échappé à la crise ivoirienne. Tout le monde a eu sa part. Donc, je ne sais pas comment on peut choisir juste un seul endroit pour dire que c'est là qu'il y avait des génocides. Si on parle de mot génocide, ça concerne toutes les territoires ivoiriennes. Donc, il ne faut pas que les autres s'approchent.
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas confondre le mot génocide avec le mot massacre. Génocide, c'est l'extermination déterminée et méthodique d'un peuple, d'un groupe d'individus selon leur race, leur religion ou leur origine.
Voilà, mais pour moi, si on parle, parce que tout le monde a, il y a pas un peuple ivoirien qui n'a pas eu vraiment
de vous dites finalement, c'était les conséquences, hein, c'est ma sens, ce sont les conséquences de la crise post-électorale. Et moi, ce que dit Youssouf, c'est que finalement, toutes les couches de la population ivoirienne ont été touchées par des victimes. Merci Youssouf de votre contribution à cette libre antenne 33 1 55 07 58 00. Alors, on demande à Abdel de patienter pour parler un peu du Bénin. Je demande à Demba de nous rappeler s'il nous écoute. Ce serait bien qu'on parle un peu du Mali. Et on va plutôt fermer ce sujet ivoirien avec Wilfried d'abord. Voilà. Wilfried, bonjour.
Bonjour à tous. Donc, je vous appelle, moi, c'est plus sur le fait des propos de Madame Ouletto. Donc, moi, personnellement, je pense que il faut garder la raison. Il faut rester dans le vrai. Alors, peut-être que le mot génocide est un peu fort, mais il y a eu des massacres équivaut à un génocide. Donc, le fait que quelqu'un du gouvernement en place se permette de dire que ou bien carrément de nier le génocide, c'est vraiment inadmissible. Voilà, c'est vraiment inadmissible. On a reproché à peu de choses près, on a reproché à Jean-Marie Le Pen ici en France d'avoir nié les camps de concentration. Et ben pour moi, ce qu'a nous le tout fait, c'est
du négationnisme, c'est ce que vous dites.
Voilà, c'est du négationnisme. Voilà.
Merci Wilfried de nous avoir appelé pour revenir sur cette polémique sur les propos d'Anne Ouletto, qui s'est refusé d'employer le mot génocide concernant les massacres qu'il y a eu à Douekwe. Bonne journée à vous, Wilfried. Merci. Abdel, bonjour.
Oui, bonjour.
On change de sujet avec vous, Abdel. Vous vouliez parler du Bénin. Alors, l'armée française, on a un peu plus d'informations, a annoncé la libération de 4 otages au Bénin, dont les 2 enseignants qui avaient été kidnappés du côté du parc du Penjari, dans le nord du Bénin. Alors, selon des sources diplomatiques européennes, les 2 autres otages libérés sont une citoyenne nord-américaine et une sud-coréenne. Et selon les mêmes sources, 2 militaires français ont été tués au cours de l'opération qui a eu lieu sur le territoire du Burkina Faso. Voilà pour les infos qu'on a pour l'instant.
Ok, les otages sont libérés au nord du Burkina Faso, dans les 2 Béninois.
Ils ont été libérés au... Oui, c'était plutôt 2 Français enlevés au Bénin.
Oui, au Bénin, oui, c'est ça. Écoute, nous saluons vraiment cette situation. Malheureusement, nous avons eu un compatriote qu'on a abattu. On ne sait pas ce qui a justifié la mort de celui-là, alors qu'il aurait pu être otage comme les autres. Et ce que je vais profiter, parce qu'il y a une situation conflictuelle avec les élections au Bénin, et je crois que tout le monde doit reconnaître que quand 2 personnes se battent, l'ennemi profite pour s'incrustrer. Donc c'est à nous de ne pas ouvrir la porte vraiment à ce désordre-là. Il y a longtemps que le Bénin existe et on n'a jamais connu ça. Malheureusement, bien avant cette édition, on avait déjà les alarmes, il y avait des signaux qui signalaient que le Bénin est une porte pour les djihadistes. Et dans le même temps, le gouvernement a déployé des forces là-bas. Malheureusement, pour coïncidence, c'est en ce même moment-là qu'on apprend l'enlèvement, ce qui n'a jamais eu lieu. Donc, il faut qu'on revoie vraiment tout le dispositif pour savoir vraiment qu'est-ce qui a pu donner cette faiblesse-là pour que ça arrive maintenant et qui coïncide avec les problèmes des élections. Donc, le Béninois, l'ensemble de la classe politique doit comprendre que notre problème, on doit pouvoir les gérer et se protéger par rapport à tout ce qui nous entoure. Les élections ce n'est pas la fin du monde. Alors, on va passer à autre chose et puis on va régler tous les problèmes qu'il y a dans la paix, surtout dans la paix. Parce que c'est les crises, les situations de violence, là, c'est ça qui donne les portes ouvertes à toutes les bêtises humaines. J'espère qu'on va, on sera
raison. Est-ce que la paix, ça veut dire le consensus, Abdel?
Oui,
souvent on agite dans ça, beaucoup de pays comme ça, on agite comme ça la nécessité que la paix soit préservée, et c'est parfois au détriment de la revendication de ses droits.
Oui, les droits, on ne finit jamais de revendiquer les droits, mais ce n'est pas avec les armes qu'on a trouvé la réponse. La solution aujourd'hui, ça continue toujours. Il y aura des élections, il y en aura d'autres, il y en aura tout le temps. La construction, c'est une œuvre de longue haleine. On ne va pas casser tout parce qu'il y a un problème aujourd'hui, alors il faut tout briser. Ça va être un terrain de recommencement. C'est ça la situation. On est encore loin de d'autres pays qui ne font pas la démocratie. La démocratie béninoise, elle se construit, elle fait son chemin.
Merci, Abdel. On rappelle quand même que ce ne sont pas les manifestants qui ont tiré sur les militaires, mais plutôt l'inverse. 33-1-55-07-58-00. 33-1-55-07-58-00. Appelez-nous, je vais vous faire une petite confidence. On a pas mal de lignes qui sont libres. Ce serait bien, si vous nous écoutez, vous n'avez pas jamais appelé le journal des auditeurs. On vous attend, prenez votre téléphone. Si vous êtes en France, composez le 01-55-07-58-00. Mais vous pouvez faire le même numéro avec l'indicatif. Ça marche aussi si vous êtes à l'étranger. C'est le 33-1-55-07-58-00. C'est d'ailleurs pour ça que je donne toujours ce même numéro. Si vous êtes à Abidjan, appelez-nous, 33-1-55-07-58-00. On vous rappelle, vous inquiétez pas. On va écouter Simon qui veut nous parler du Togo. Alors au Togo, il y a eu cette réforme constitutionnelle qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, cette réforme tant attendue, puisqu'elle est issue des manifestations commencées il y a à peu près 2 ans, puis du dialogue politique sous l'égide de la CEDEAO. Finalement, la limitation des mandats a été introduite dans cette réforme constitutionnelle, les mandats limités à 5. Au début, l'UNIR voulait proposer des mandats de 7 ans. Limitation des mandats adoptée, mais cette limitation des mandats ne sera pas rétroactive. Donc, Faure Gnassingbé, le président togolais, pourra se représenter encore 2 fois au moins. On en parle avec Simon. Bonjour Simon.
Oui, bonjour maman Stéphanie. Merci de m'avoir donné la parole. Vous savez très bien que le Togo, le pays, m'est très très cher au cœur. Et en ce moment, il y a beaucoup de problèmes au Togo, c'est-à-dire concernant le développement du pays, la souffrance de la population. Moi, je ne comprends pas quelle est la politique quel est ce genre de politique qui font au Togo. La politique qui se passe au Togo concernant le parti au pouvoir, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Comment on peut continuer à faire la politique en oubliant le peuple? Le peuple, c'est des chiens ou bien c'est des cafards? Mais je ne comprends plus rien.
Mais quel regard portez-vous, Simon, sur cette crise politique? On a vu qu'elle avait commencé sur les chapeaux de roue avec l'implication du PNP, ça doit être le Parti National Panafricain, qui avait repris les manifestations pour demander le retour à la Constitution de 92 et un certain nombre de réformes institutionnelles. Bon an, mal an, depuis 2 ans, ce mouvement, finalement, s'est épuisé, non?
Oui, mais...
Et il accouche d'une souris.
Oui, mais le regard que je porte sur la politique, c'est quand même incroyable. C'est les gens.
Alors, à qui est dû cet échec, mon cher Simon, selon vous? C'est ça que je voulais vous demander.
L'échec, je pense que l'échec, je ne peux pas l'imputer à l'opposition, franchement. Je ne peux pas l'imputer à l'opposition. Je peux l'imputer au pouvoir en place parce que c'est ce pouvoir-là qui gouverne depuis 50 ans, 60 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas l'imputer. Aujourd'hui, l'opposition, il a quoi? Il a fait quoi? L'opposition s'est soulevée parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien. Mais c'est ensemble qu'on peut trouver une solution. Les gens-là, ça fait des décennies qu'ils se mettent à table pour parler du Togo. Parce qu'ils ne veulent pas de problèmes, ils ne veulent pas Donc, les gens sont fatigués. Bon, les gens ne prennent pas les armes, les gens veulent parler entre eux. Pourquoi on se fait berner à chaque fois? Au moins, quand même, un peu de bon sens au niveau du pouvoir, de se dire, voilà, il faut faire quelque chose de bien pour la population. Donc, c'est de, on part dans la même direction. Mmh. Hein? On ne peut pas accuser l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition il a fait? Il n'a rien fait de mal. C'est les mêmes qui gèrent le pays depuis X temps. Et quand vous allez dans...
Pour vous, il y a eu un mépris des aspirations du peuple, comme on dit maintenant, Simon.
Ils ne prennent pas en considération. Ils ne prennent pas en considération. Ils traitent les Togolais comme des chiens. Je vous dis, ils traitent les Togolais comme des cafards. C'est-à-dire que le Togolais n'a pas le droit. Il n'a aucun droit. C'est ça le problème. Moi, je n'ai rien contre le pouvoir en place. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils font de la politique pire et minable. C'est une politique qui ne sert à rien, voilà. Qui ne rapporte rien. La politique des intérêts pour ceux qui sont en place. C'est ça, la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Normalement, la politique, elle est faite pour la population. La politique, elle n'est pas faite dans l'intérêt des gouvernants.
Merci Simon, on a bien compris Simon, vous avez dit, hein, finalement il y aurait peut-être d'autres priorités pour les Togolais, hein. Vous avez évoqué les problèmes d'éducation, d'accès aux soins et à la santé, et pour vous hein, finalement cette réforme n'était pas, si j'ai bien compris, hein, n'était pas forcément utile. Merci Simon, bonne journée. Alors... on a retrouvé Demba, donc on va revenir sur le sujet du Mali et du nouveau gouvernement. Demba, bonjour.
Ouais, rebonjour Madame Akman.
Rebonjour Monsieur Demba, on parlait du nouveau gouvernement de Boubou Cissé. Qu'attendez-vous de ce nouveau gouvernement?
Voilà, pour le nouveau gouvernement, je le souhaite au revoir déjà. Voilà, mais c'était pas mon souhait parce que dans le temps de ATT, il a fait la même chose, il a appelé tous les opposants à rentrer dans le gouvernement. Et tout le monde était dans le gouvernement, chacun fait son business et il voulait dépenser au peuple, chacun fait son business personnel, et puis le pays est tombé dans là où on est. On espère que ce gouvernement sera là pour faire que le Mali s'en sort de ces crises-là. Et puis les opposants, quand ils faisaient les ho-ha-ho au pays depuis le deuxième mandat de IBK, c'était pour rentrer dans le gouvernement. Bon, là, ils sont rentrés, surtout...
L'URD n'est pas signataire de l'accord politique, oui, hein, l'URD de Soumaïla Cissé, qui est quand même le chef de file de l'opposition.
C'est le maillot fort de Soumaïla Cissé, tout le monde le sait.
Non, c'était l'ancien directeur de cabinet, mais il est membre du PARENA, c'est pas le même parti. Mais membre du Front, c'est ça.
Ils étaient dans le même... Madame Akman.
La même coalition de Front de sauvegarde pour la démocratie.
Soumaïla Cissé, non, là où il est resté, c'est... Mais il a fait ça pour son intérêt. Voilà,
si j'entends bien Demba votre analyse, alors si je comprends mieux peut-être votre analyse, vous dites finalement il envoie monsieur Soumaïla Cissé, chef de file d'opposition, envoyé l'un de Thiébilé Dramé pour gouvernement tout en ne l'étant pas. C'est ça, voilà, avoir un pied de chaque côté.
Voilà exactement. Bon. Lui il a bien fait de rester dans l'opposition, c'est pour critiquer, on fait ça. Voilà, mais comment ça s'appelle, Thiébilé Dramé qui faisait ho-ha-ho avec Soumaïla Cissé, qui rentrait dans le gouvernement, et puis, d'un coup, la peste qu'il a eu là, vraiment, je suis content qu'il ait eu ce poste-là, parce que là, c'est très intéressant. Par rapport à la crise...
Ministre des Affaires étrangères, hein, en effet, il va devoir défendre un accord politique qu'il a fustigé, un accord de paix qu'il a fustigé en nombreuses années, l'accord d'Alger.
Qui puisse dire la vérité aux Occidentaux, Madame Akman, parce que Mali, tout le monde sait que la crise malienne ne vient pas du Mali, ça vient de l'extérieur.
Merci Monsieur Demba qui voit dans ce nouveau gouvernement une bonne nouvelle, hein, notamment dans la nomination de Thiébilé Dramé comme ministre des Affaires étrangères. Merci. On continue de parler du Mali avec, par ordre d'arrivée, on va écouter dans un instant Monsieur Diaby, puis Monsieur Keïta, puis Mohamed. Monsieur Diaby, bonjour.
Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour. En fait, on n'écoutera que Monsieur Diaby, on arrive à la fin de l'émission.
Non, mais je sais. Mais de toute façon, je vais dire aux Maliens qui ne comprennent qu'il y a des gens qui ne disent écoute, je suis d'accord avec Demba des choses, mais n'a pas bien compris, en fait. Parce que Soumaïla, c'est opposant aujourd'hui du Mali. Il n'y a pas d'autres opposants, à part Soumaïla et CDR. Il n'y a pas d'autres opposants. C'est les deux partis qui sont opposants de IBK qui ne sont pas participés. Ouais, Thiébilé Dramé, c'est simplement, c'était le porte-parole de campagne. À partir de campagne, porte-parole, on n'est pas le même parti que lui. Notre parti, c'est RDE. RDE, c'est opposant de IBK.
Oui.
Donc là, Soumaïla, il n'a aucun cas, Soumaïla. Il n'a fait aucune signature. Il n'y a aucune personne de KDA avec Ibeka.
On finira sur cette analyse, mon cher Diaby. Diaby, hein, qui dit, oui, non, l'opposition n'est pas rentrée puisque l'URD n'a pas signé. Merci à tous de votre participation. N'hésitez pas, les prochaines fois, à vous inscrire en nous laissant un message sur le répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 33 1 55 07 58 05. 33 1 55 07 58 05. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Lundi, tiens, nous pourrons reparler du Mali et plutôt de cette libération de djihadistes en échange d'otages. C'est une information que le gouvernement n'a pas confirmée, mais n'a pas nié non plus. On en parle lundi, si vous voulez. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute d'Africa Radio, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À lundi.